Depuis plus de deux décennies, la Chine occupe une place prépondérante dans le secteur minier africain en s'assurant l'accès à des ressources stratégiques grâce à des accords infrastructures contre minerais. Pouvez-vous expliquer comment cette domination s'est construite et pourquoi Pékin a ciblé les ressources africaines avec autant d'agressivité?
La clé réside dans l'industrialisation fulgurante de la Chine au début des années 2000. Pékin avait besoin de quantités massives de cobalt, de cuivre et de lithium pour alimenter son expansion industrielle et plus récemment sa transition énergétique. L'Afrique, et surtout la République démocratique du Congo, offrait précisément ces ressources en abondance. La Chine a proposé un modèle séduisant pour de nombreux États africains. Financer et construire des routes, des hôpitaux ou des lignes de chemin de fer en échange de droits d'exploitation minière. Cette formule lui a permis de se positionner comme partenaire privilégié, car elle répondait à la fois aux besoins de développement des infrastructures et à la recherche de revenus rapides pour les gouvernements africains. Pour donner un ordre de grandeur, la RDC fournit à elle seule près de 80% du cobalt mondial. Grâce à des accords comme celui de la Sicomine, la Chine contrôle aujourd'hui une grande partie de cette production, consolidant ainsi son rôle dominant dans l'approvisionnement mondial de minerais stratégiques.
Ce contexte est essentiel, mais en pratique, quel a été l'impact réel sur les économies locales? Beaucoup espéraient que les investissements chinois stimuleraient le développement et favoriseraient un transfert de technologie. Est-ce que ces promesses se sont concrétisées?
Malheureusement, les résultats sont loin des attentes initiales. Certes, les projets d'infrastructure se sont multipliés, mais leur impact économique direct reste limité. Peu de transferts de compétences, des créations d'emplois inégales et souvent temporaires. Pire encore, les avantages fiscaux consentis aux entreprises chinoises ont amputé les recettes publiques. Selon un rapport du CNPRV publié en 2024, ces exonérations fiscales ont coûté à la RDC 132 millions de dollars de manque à gagner en une seule année. Cela illustre à quel point le rapport coût-bénéfice penche largement en faveur de la Chine, au détriment du budget national et du développement durable des communautés locales.
Avec la montée du mécontentement au sein des populations et l'activisme accru des organisations locales, on observe un changement d'attitude. Quel rôle la société civile joue-t-elle dans la contestation de ces accords miniers et comment les gouvernements réagissent-ils face à cette pression?
La société civile a pris une place centrale dans le débat. ONG et associations locales et groupes communautaires dénoncent le manque de transparence dans les contrats, les effets limités sur l'emploi local et les impacts environnementaux souvent passés sous silence. Alors, elles organisent des campagnes, interpellent les médias et saisissent parfois les tribunaux pour exiger une meilleure redistribution des richesses. Cette mobilisation a contribué à sensibiliser l'opinion publique et à accentuer la pression sur les autorités. Du côté des gouvernements, les réactions restent ambivalentes. Certains responsables défendent les accords au nom du développement et des infrastructures obtenues, tandis que d'autres commencent à demander une renégociation pour améliorer les retombées fiscales et sociales. Dans des pays comme la RDC, cette tension entre impératifs économiques et revendications citoyennes est devenue un enjeu politique majeur.
Ce tournant politique est important, mais observe-t-on aussi des conséquences concrètes pour les entreprises chinoises sur le terrain, du fait de cette mobilisation citoyenne et de la pression politique?
Oui, des répercussions commencent à se faire sentir. Dans certains cas, des projets miniers ont été ralentis ou temporairement suspendus en raison de manifestations locales ou de blocages communautaires. Des ONG et associations ont réussi à attirer l'attention des médias internationaux, ce qui a forcé certaines entreprises à adopter des mesures de responsabilité sociale, comme la réhabilitation de sites ou le financement de programmes communautaires. Dans certains pays, on voit aussi émerger des tentatives de renégociation de contrats jugés trop favorables à Pékin, avec l'introduction de clauses fiscales ou environnementales plus strictes. Cela reste limité, car les gouvernements dépendent encore fortement des investissements chinois, mais il est clair que la contestation sociale a commencé à modifier le comportement des entreprises et à compliquer leurs opérations.
Abordons maintenant les vulnérabilités économiques liées à ces accords miniers. Comment les fluctuations des prix des matières premières et la structure même de ces contrats influencent-elles la capacité des pays africains à tirer pleinement profit de leurs ressources?
C'est l'un des points les plus critiques. Les économies africaines qui dépendent fortement de l'exportation de minerais stratégiques sont extrêmement exposées à la volatilité des prix mondiaux. Quand les cours du cobalt, du cuivre ou du lithium grimpent, les bénéfices pour les États devraient être considérables. Mais dans la pratique, les contrats conclus avec des partenaires étrangers, souvent rigides et peu transparents, limitent ces gains. Beaucoup de deals fixent des prix planchers ou incluent des exonérations fiscales massives, ce qui empêche les pays de capter pleinement la valeur ajoutée lors des périodes de hausse. À l'inverse, lorsque les prix chutent, ce sont les budgets nationaux qui en subissent directement le contre-coup, car la rente minière constitue une part majeure des recettes publiques. Ce déséquilibre rend les finances publiques vulnérables et entretient une dépendance structurelle vis de partenaires extérieurs, plutôt que de renforcer une stratégie de développement autonome.
Nous avons vu que la dépendance aux minerais rend les économies africaines vulnérables. Mais récemment, certains États semblent vouloir corriger le tir. Observe-t-on aujourd'hui des mesures concrètes pour atténuer ces risques, par exemple à travers des renégociations de contrats ou de nouveaux modèles d'investissement?
Oui, on observe un tournant. La RDC a exigé la révision du contrat SICOMINE avec la Chine, passant de 6 à 20 milliards de dollars d'infrastructures. D'autres pays comme le Mali et la Guinée renégocient aussi leurs licences minières ou augmentent la fiscalité. Le Gabon, de son côté, prévoit d'interdire l'exportation de manganèse brut d'ici 2029 pour favoriser la transformation locale. Ces mesures traduisent une volonté croissante de rééquilibrer les accords et de mieux capter la valeur ajoutée.
Transparence et corruption restent des problèmes persistants. Des cas récents, comme celui de Xinfeng Investments en Namibie, font état de pots de vin et de promesses non tenues. Quels sont les défis systémiques qui rendent cela possible et comment les organismes de surveillance réagissent-ils?
La faiblesse de la régulation et l'opacité des clauses contractuelles créent un terrain propice à la corruption. La société Xinfeng a ainsi été accusée d'avoir versé un pot de vin de 3 millions de dollars pour obtenir une mine de lithium avant de ne pas construire les installations de traitement promises. Les organisations de la société civile s'appuient sur le journalisme d'investigation et des actions en justice pour exiger des comptes. Mais la force des intérêts en place et la faiblesse des capacités étatiques compliquent l'application des sanctions.
Face à ces obstacles, les gouvernements africains parviennent-ils à avancer dans la mise en place de réformes favorisant plus de transparence et de responsabilité sociale?
Oui, certains progrès sont visibles, mais ils restent inégaux. Plusieurs pays ont rejoint l'initiative pour la transparence dans les industries extractives qui impose la publication des contrats et des revenus miniers. On observe aussi l'introduction de lois exigeant la consultation des communautés locales ou la redistribution directe d'une partie des redevances. Cependant, la mise en œuvre demeure fragile, les capacités administratives sont limitées, et la résistance des élites politiques freine souvent l'application réelle de ces réformes. En résumé, les cadres existent de plus en plus sur le papier, mais leur efficacité dépend encore de la volonté politique et du contrôle citoyen.
En nous tournant vers les impacts environnementaux et sociaux, on peut citer des incidents comme la fuite d'acide en Zambie ou les projets contestés au Cameroun. Quelles sont aujourd'hui les principales préoccupations des communautés locales?
La dégradation de l'environnement reste une inquiétude majeure, et pollution de l'eau et destruction des habitats qui menacent les moyens de subsistance. En Zambie, une fuite d'acide provenant d'une mine de cuivre exploitée par une entreprise chinoise a pollué le fleuve Kafue, mettant en danger l'eau potable de milliers de personnes. Au Cameroun, le projet de minerai de fer de Lobé-Kribi fait face à de fortes contestations, les communautés locales dénonçant les risques pour les écosystèmes et le patrimoine culturel. Dans les deux cas, les habitants soulignent le manque de consultation préalable et l'absence de partage équitable des bénéfices, ce qui accentue le sentiment d'injustice.
On voit émerger une plus grande fermeté des régulateurs africains. Par exemple, le Zimbabwe a bloqué un permis de mine de charbon chinoise dans le parc national de Hwange pour des raisons environnementales. Mais cette vigilance est-elle réellement efficace?
C'est un signal encourageant, car il montre que certains gouvernements n'hésitent plus à invoquer la protection de l'environnement pour limiter certains projets. Toutefois, l'application des règles reste inégale selon les pays et les contextes. Dans la plupart des cas, ce sont encore les communautés locales qui paient le prix fort entre pollution, déplacements forcés et perte de moyens de subsistance. C'est pourquoi le renforcement de la gouvernance environnementale apparaît comme une priorité absolue pour rendre ces décisions cohérentes et protéger durablement les populations.
Le Zimbabwe et la Namibie, par exemple, ont interdit l'exportation de lithium brut afin d'imposer une transformation locale. Qu'est-ce qui motive ce virage vers la création de valeur ajoutée?
Ce pivot répond à une double logique. D'une part, les gouvernements veulent rompre avec le modèle d'exportation de matières premières à faible valeur, qui enrichit surtout les acheteurs étrangers. En obligeant les entreprises à raffiner ou transformer sur place, ils cherchent à stimuler l'industrialisation, créer des emplois et capter davantage de revenus fiscaux. D'autre part, la demande mondiale en minéraux critiques comme le lithium ou le cobalt donne aujourd'hui un rapport de force plus favorable aux pays producteurs. C'est donc un choix stratégique, utiliser cette conjoncture pour renforcer leur souveraineté économique et s'assurer que les ressources naturelles profitent davantage aux économies locales.
Alors, José Kimonio, ces politiques atteignent-elles réellement leurs objectifs ou produisent-elles aussi des effets inattendus?
En effet, les preuves sont mitigées. On a vu des investissements positifs, comme l'usine de lithium de 300 millions de dollars construite par Wahyu Cobalt au Zimbabwe, preuve que la transformation locale peut attirer des capitaux. Mais à l'inverse, des mesures trop restrictives peuvent décourager d'autres investisseurs ou encourager la contrebande. Tout l'enjeu est donc de trouver un équilibre, défendre les intérêts nationaux tout en maintenant un climat d'investissement compétitif.